Aujourd'hui dans l'actualité, les dangers du portable, un véritable cafouillage sanitaire. On constate différentes versions concernant les dangers liés à l'utilisation du portable. En effet, on entend le plus souvent que l'utilisation prolongée du portable comporte des effets négatifs sur le cerveau. Or aujourd'hui, une étude danoise vient remettre en cause ces faits. Dans un article publié par Alice Lemar dans le journal France Soir, le portable ne présenterait aucun risque cancérigène sur le cerveau. En effet, selon une étude danoise menée sur 17 ans, auprès de 358 400 abonnés en téléphonie mobile, conclut que le portable n'augmente pas le risque de cancer. Cependant, cette étude a révélé que sur les abonnés étudiés, 10 730 ont été atteints par un cancer du cerveau. De plus, même si cette étude se veut rassurante sur les risques sanitaires liés au portable, elle n'exclut pas un risque plus important chez les gros utilisateurs du mobile. En effet, elle recommande quand même l'usage du kit main libre et de limiter notre exposition aux ondes du téléphone. Le constat est le même pour Le Point et L'Express. Or, selon le journal Sud-Ouest, le portable aurait bel et bien un impact sur le cerveau, mais on ne sait pas si sa nocivité est importante ou pas. Selon une étude américaine cette fois, les ondes émises par le portable ont bel et bien un impact sur notre activité cérébrale, mais des questions subsistent toujours quant à leur nocivité. C'est donc à se demander qui devons-nous croire à propos de la dangerosité du portable et si les autorités n'essayent pas de nous cacher la réalité à des fins économiques. Selon le journal France Soir, les études menées par les associations de consommateurs montrent que le portable est bien dangereux pour la santé des individus. Enfin, selon le journal du dimanche, les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il n'existe pas encore de preuves formelles sur la nocivité du portable, mais cependant, il existe un risque quant à l'apparition de cancer du cerveau en cas d'une exposition de longue durée. En effet, la température de notre cerveau augmente de 2 à 3 degrés suivant la durée de communication. Pour les cancérologues, il est important de connaître les risques que cela peut provoquer pour la santé et d'en connaître les conséquences. Le fait est qu'il faut arrêter de mentir à la population en disant qu'on ne craint pas grand-chose alors que les études de plus en plus nombreuses viennent alimenter nos inquiétudes sur l'utilisation du mobile. Les inquiétudes qui peuvent remettre en cause le marché de la téléphonie mobile.
Et maintenant, une affaire très lourde moralement et qui a fait scandale. Un homme de 34 ans séropositif comparaissait hier aux assises de Paris pour avoir contaminé Simon, son ancienne compagne. Il a été condamné à 9 ans de prison. En 2000, après une vidérance et de toxicomanie, Hicham Garsala, sur le point de trouver un travail stable, décide de passer le test du dépistage du VIH. Diagnostiqué séropositif, il ne prend pas la peine de se soigner. « Je me disais que j'allais mourir quoi qu'il arrive », a soufflé l'accusé, qui assure qu'on ne l'avait pas informé des modalités de transmission du virus. 4 ans plus tard, après différentes relations sans lendemain, il rencontre Agnès dans un cybercafé. Comme avec ses autres partenaires, le malade n'utilise pas de préservatif. « Ça m'empêche d'avoir des sensations », a-t-il justifié avec un cynisme hors norme devant un auditoire médusé, rapporte la journaliste Christine Matteux dans Le Parisien. Dans Libération, le quotidien nous expose ce qu'ont ressenti les victimes par l'intermédiaire de l'avocat général Julien Hérault, qui caractérise cet acte comme un comportement social inqualifiable. À ses yeux, l'accusé a bouleversé, fracassé les règles du vivre ensemble dans une société. Le représentant du ministère public avait qualifié les 4 jours de procès lourds émotionnellement, comme une apnée au cœur d'un salaud ordinaire. L'avocat général s'était indigné du manque de respect de l'accusé vis-à-vis des victimes, des gamines en perdition, avec lesquelles il n'a pas utilisé le préservatif parce qu'a-t-il dit durant l'audience, il l'empêchait de jouir d'avoir des sensations. L'important était la seule satisfaction de son plaisir personnel. Tant que moi je jouis, est-ce que le reste a de l'importance? Toujours dans Libération, le journal évoque le changement de comportement de l'accusé qui niait les faits en bloc et qui aujourd'hui, au cours de l'audience, a reconnu avoir Simon transmis le VIH à Agnès, son ancienne compagne, et d'avoir eu des rapports sexuels non protégés avec 2 autres jeunes femmes qui n'ont pas été contaminées. Avant que la cour ne parte délibérer vendredi, il leur a demandé pardon. Il y a du chemin qui a été fait par l'accusé, a reconnu Julien Hérault. Cependant, dans la dépêche, son ex-compagne déclare « C'est une peine assez lourde, mais je ne peux pas dire que je suis heureuse. On ne me rendra jamais ma vie d'avant. » Quant aux excuses bredouillées du bout des lèvres par l'accusé, c'était du bidon, il n'en croyait rien. Ses motivations, il voulait se venger, estime pour sa part Agnès. Lorsque je lui ai appris qu'il m'avait inoculé le sida, il m'a répondu « et alors, moi aussi on m'a baisé ». Effectivement, il est possible de remettre en cause la sincérité des excuses, car dans le journal 20 minutes, Hichem déclare « De toute façon, dans un an et demi, je suis dehors ». Dans France Soir, l'avocat de la défense, maître Pascal Gabarini, dresse le portrait d'un homme mal aimé. Certes, il a fait du mal, mais c'est un homme en souffrance, a-t-il défendu. On a criminalisé des faits, mais est-ce qu'on a prévu des soins, un suivi? Non, ce n'est pas prévu par la loi. On veut apporter une réponse pénale à un comportement déviant. D'accord, mais comment? Il lui faut une obligation de soi, a demandé l'avocat. Une question se pose donc à l'issue du procès dans la dépêche. Le comportement de l'accusé est peut-être symptomatique d'un déséquilibre mental, mais la cour ne peut pas ordonner d'injonction de soins. L'avocat des parties civiles a donc appelé le garde des Sceaux à légiférer afin que de tels criminels ne soient pas relâchés sans un suivi thérapeutique. Et sinon, quoi d'autre dans la presse ?
La qualité des médicaments génériques est contestée. En effet, selon la Tribune, les autorités envisagent de dérembourser les copies de médicaments responsables d'allergies. Une telle décision pourrait rester un cas isolé.
Toujours dans le domaine des médicaments, mais cette fois-ci avec un effet positif, la découverte d'un premier procédé thérapeutique réellement efficace contre la mucoviscidose. En effet, le Figaro rapporte une étude qui démontre pour la première fois l'efficacité durable d'un traitement s'attaquant à la cause de la maladie chez certains enfants atteints de mucoviscidose, confirmant les résultats préliminaires encourageants obtenus voici quelques mois.
Et maintenant, une enquête publiée par France Soir, dans laquelle il est révélé que les enfants autistes produisent trop de neurones. En effet, la prolifération de neurones dans la zone du cerveau qui contrôle la communication, le comportement social ou encore la bonne humeur avant la naissance pourrait être à l'origine du développement de l'autisme.
Pour finir, le ministère de la Santé a finalement tranché, le don du sang en France restera éthique. Comme le révélait Le Point, alors que l'Hexagone risque une pénurie de plasma, le ministère de la Santé a bien envisagé d'importer ce produit sanguin de l'étranger. Cela aurait été une première en France, où le don de sang est extrêmement encadré, en particulier depuis l'affaire du sang contaminé, et notamment régi par un principe jusqu'ici inaltérable, la gratuité. Un principe qui fonde l'essence même du don éthique français.